Semaine du 13 février 2012, bienvenue à Soccer Plus.
The 2012 MLS Expansion Draft, first pick, is Brian Ching.
Bonjour mesdames, messieurs. Depuis le 23 novembre 2011, l'Impact de Montréal a été pris complètement dans une saga, celle de Brian Ching. Brian Ching qui avait annoncé quelques jours avant le repêchage d'expansion qu'il n'irait pas jouer à Montréal. Et là, eh bien, après plusieurs mois, des tergiversations multiples, Brian Ching est à nouveau un membre du Dynamo de Houston. Bienvenue à l'émission de cette semaine. Nous allons grandement parler de cette transaction qui a été annoncée mercredi soir. Donc, au moment d'enregistrer l'émission, ça a fait en sorte qu'il a fallu chambouler quelques entrevues coupées ici à droite et à gauche. On va aller parler avec Patrick Leduc du camp de l'Impact en Californie. On le rejoint à Los Angeles. On parlera justement de cette annonce de transaction avec Jesus Ortiz, journaliste affecté à la couverture du Dynamo de Houston au Houston Chronicle. On parlera aussi avec Mark Tougat de cette transaction et de la visite de Don Garber à Montréal. Avec Jonathan Tannenwald, on parlera d'une information que j'étais au courant depuis ma visite à Los Angeles à la Coupe de la MLS en novembre, à savoir que le réseau Fox avait fait de la pression auprès de la FIFA pour que le calendrier de la MLS passe donc au calendrier européen, à savoir une saison qui commencerait un peu comme le hockey ou le basket et en Amérique du Nord à l'automne pour ensuite s'en aller vers une pause hivernale et une fin de saison au printemps. Alors, c'est le réseau Fox qui, pour une raison dont eux seuls possèdent le secret, voulait s'en aller dans ce sens-là pour améliorer les cotes d'écoute. Veux pas, les cotes d'écoute l'été, c'est pas évident, hein? En Amérique du Nord, les gens ne regardent pas autant la TV, disons, l'été que dans la saison automnale, hivernale et printanière. Alors, c'est là qu'il y a le haut des cotes d'écoute en télévision. Et probablement qu'on veut se donner une petite chance, en ce sens-là, du côté de Fox, d'aller dans cette direction-là et pousser la FIFA à pousser la MLS à son tour. Alors, on en a parlé longuement avec Jonathan Tannenwald et vous allez l'entendre. Notre correspondant a été piqué au vif par l'information et ça donne de la bonne radio, comme on dit. On a parlé avec Kevin Cossette. Il y a plusieurs gens qui voulaient savoir ce qui se passait avec lui. Kevin Cossette, ancien membre de l'Organisation de l'Impact de Montréal, qui a participé au camp de dépistage de la NASL la semaine dernière en Floride, le week-end dernier en fait. Alors, on l'a rejoint et on a parlé de ses perspectives d'avenir, le rêve qui n'est pas éteint pour lui de rejoindre la MLS un jour, bien qu'il reconnaît aujourd'hui qu'il n'a pas les outils nécessaires pour jouer en MLS maintenant. Alors, peut-être un petit David Desharnais du soccer en devenir, on verra. Il est prêt à commencer au bas de l'échelle et c'est à son honneur, à son grand honneur. Alors, cette semaine, on a donné congé à nos correspondants internationaux. On a donné congé aussi à Lisa Erickson et on les retrouvera dans les prochaines émissions. Quelle semaine absolument folle et on doit remercier en grande partie Joey Saputo pour avoir mis du piquant dans la semaine, une visite éclair en Europe qui nous amène à Matteo Ferrari qui débarque de l'Europe, donc avec l'équipe en Californie. Officiellement, il est à l'essai, on entendra Patrick Leduc là-dessus. Officiellement, donc, à l'essai avec l'équipe et on verra là, pour la suite des choses. Ce qui est intriguant dans cette situation-là, c'est que ce joueur-là a une valeur marchande de plus d'un million de dollars, voire même plus de 2 millions de dollars par année. Alors, comment ce gars-là n'est pas un joueur désigné? J'ai posé la question à Joey Saputo lors du point de presse qui a suivi la visite de Don Garber mercredi à Montréal. Et voici ce qu'il nous a répondu.
Parce qu'on a bien négocié le contrat, c'est pas ça. Non, c'est, écoute, des fois, il y a des voyages qu'on fait comme ça, il y a beaucoup qu'on apprend. C'est un joueur qui vient juste de terminer son contrat avec l'équipe qu'il avait. Ils ont racheté son contrat. C'est un montant qui était pour lui très confortable et le joueur voulait jouer. Il connaît Montréal, il a lu beaucoup sur l'Impact de Montréal, il a lu beaucoup sur l'MLS et lui, il veut être en Amérique du Nord. Alors, c'était une opportunité pour nous. excellent. On va avoir deux défenseurs de taille avec Rivas puis Ferrari en arrière. Alors, c'était une opportunité. Puis, comme je dis, c'était bien négocié. C'était un joueur qui voulait être ici. C'était pas un joueur qui nécessairement voulait être payé des sommes d'argent qui étaient affreux.
Donc, pour démêler tout ça, là, c'est un joueur et à part de ça, il y a un joueur désigné qui s'en vient. Bon, là, on peut pas rien faire pour l'instant parce que ce joueur désigné-là, XYZ, dont on ignore l'identité, est toujours sous contrat avec son club européen et il ne sera pas à Montréal, là, de ce qu'on comprend, avant le marché d'été, ce qu'on appelle le mercato. Donc, il terminera sa saison au mois de mai. On sera peut-être en mesure de l'annoncer à ce moment-là. Mais voilà. Voilà pour la situation actuelle de l'Impact de Montréal. Et je peux vous dire là, que voir le pétillant dans les yeux de Joey Saputo lorsqu'il a dit qu'on va être pas mal satisfait du joueur qui s'en vient à Montréal, ça doit être quelqu'un de pas mal spécial. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que Joey Saputo, il ne faut pas oublier là, qu'il est président du club, mais il est avant tout le partisan numéro un de l'Impact de Montréal. Et quand il a répondu à d'autres confrères journalistes qui lui ont demandé si ça avait été réfléchi ou si ça avait été spontané, ces gazouillis ou ces textes qu'il a écrits sur Twitter, il a répondu d'emblée que c'était spontané. Ça, ce que ça veut dire, les amis, c'est que Joey Saputo, le partisan de l'équipe, était excité de vous faire savoir à vous, collègues partisans, qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient avec l'Impact de Montréal cet été. Il y a une préoccupation pour la vente de billets de saison. Il y a une préoccupation aussi à amener un engouement à Montréal autour de l'Impact supérieur à ce qui existe présentement avec l'arrivée d'un joueur désigné. Alors, ça regarde bien. Et si Joey Saputo, et j'en parlais avec Patrick Vallée, les tweets ou les gazouillis écrits par Joey Saputo sont souvent faits par Patrick Vallée à la demande de Joey, mais quand le tweet est arrivé seulement en anglais et qu'il n'y a jamais eu de traduction française là-dessus, du moins là, ça se peut que je me trompe, là, mais je pense pas que j'ai vu ça en français sur le site ou le compte Twitter de Joey Saputo. Ça veut dire que c'est Joey Saputo qui l'a écrit. Et savez-vous quoi? C'est intriguant comme façon de communiquer les choses. On verrait pas ça dans un autre sport à Montréal. Et même ailleurs, je me demande combien de sports feraient ça. Mais savez-vous quoi? C'est rafraîchissant. C'est excitant. Et peut-être que des fois, ça va mettre l'équipe dans le trouble. Mais généralement, ça va nous faire une équipe qui va être palpitante à suivre. Si le président Saputo continue d'écrire des gazouillis comme ça, comme il le fait, je pense que ça peut être pas mal le fun de suivre cette équipe-là dans les semaines et mois à venir. Alors, je vois ça d'un œil positif. Je me suis posé la question. J'ai pensé à Patrick Vallée tout de suite quand j'ai vu ce message-là que Joey Saputo avait écrit sur Twitter. Je me suis dit, oh boy, comment on va gérer ça? Mais je pense que c'est de bon augure. Je pense que c'est de bon augure avec le recul. Je pense que ça pourrait être pas mal intéressant. Il va peut-être avoir quelques fois, comme je vous dis, là, qu'il va peut-être y avoir des pieds dans les plats. Ou en tout cas, je le souhaite pas, là. Mais c'est un risque. C'est un risque qu'on prend en fonctionnant comme ça. Parlez-en aux partisans du Dynamo de Houston et Chris Canetti, le président de l'équipe là-bas aussi, qui se laisse aller pas mal sur Twitter. Alors, voilà. Dans le cas de Matteo Ferrari, il y a des informations qui semblent un peu contredisantes, par contre, quand on entend les différents discours qui viennent de l'Impact de Montréal. D'une part, on entend que c'est un joueur qu'on aurait un peu... c'est comme si on laisse présager ou qu'on laisse entendre qu'on l'a rencontré là-bas. Mais ça fait des semaines et des mois, moi, que j'entends qu'on m'a dit de différentes sources que ce joueur-là a été présenté à la haute direction du club. Alors, je ne sais pas trop là, quoi en penser, là, mais il y a des informations qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Là. On n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec les différentes sources sur ce dossier-là. Alors, bref, Matteo Ferrari est avec l'Impact de Montréal. On en parlera avec Patrick Leduc un peu plus tard. D'abord, l'information qui a reviré ce podcast sens dessus-dessous, eh bien, on y va tout de suite avec la transaction Brian Ching.
Il you know, I'm professional, and you know, sometimes you don't get what you always want, and you know, over the past 2 months, I've come to cope with that and deal with it, and you know, come to the city and play for the teammates and the fans, and can't thank the fans enough. You know, that reached out to me over Twitter and you know, wish me nothing but good luck here. And you know, it's, for me, it's about being a professional and winning games. And you know, it doesn't matter where I'm at. I'm a competitive guy, and you know, I'm going to give it everything I can. You know, nothing against Montreal. I definitely come up here, and you know, I've been to a new city, opening up a new team before, obviously in Houston, and you know, the challenges with that, and you know, the excitement that comes with it. And you know, I'm definitely excited. I've heard nothing but great things about the city of Montreal being a beautiful place and having beautiful people, and you know, I need to learn a little bit of French apparently. So it's been a bit of a struggle trying to find places, but you know, I made an emotional, you know, emotional decision at an emotional time. You know, things kind of got spurred up on me, and I didn't have time to reflect. And over the past 2 months, I've been able to reflect and do that. And you know, I'm here today to help the Impact win games.
Ah, je sais pas pour vous, mais je suis vraiment ému. Franchement, là, depuis le jour 1, là, depuis le jour 1 de cette histoire-là, croyez-vous pendant 5 secondes et quart que ce gars-là aurait les tripes et le cœur à Montréal? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un gars comme ça? On lui dit merci, au revoir, et j'ai hâte que tu viennes jouer au Stade Saputo contre nous. Parce qu'on va t'en faire voir de toutes les couleurs, mon cher ami. Viens pas nous remplir avec des histoires de « Ah ouais, je veux vous aider à gagner des matchs. » On va voir ça, si tu vas nous aider à gagner des matchs quand vous allez jouer contre nous, chers amis de Houston. Bon, quand on dit transaction, ben, on espère avoir quelque chose de pas pire en échange de Brian Ching. Ben, la transaction, elle a eu lieu. La transaction, elle a eu lieu mercredi soir, au moment d'enregistrer cette émission. Et la transaction, eh bien, à prime abord, ne semble pas très gagnante-gagnante pour l'Impact de Montréal. Brian Ching retourne à Houston. Il accepterait une baisse salariale d'à peu près 50%. Et en retour, l'Impact hérite d'un choix de repêchage conditionnel en 2013. Pour nous en parler, Jesus Ortiz du Houston Chronicle.
Hey, Phil, how are you?
Not too bad. So apparently the Brian Ching situation is coming to a conclusion.
Yes.
So what have you learned?
That the sides have reached a deal that both sides are comfortable with, Montreal and the Dynamo, and it's been capped by Brian Ching agreeing to a deal in principle with the Dynamo to renegotiate his contract. So they've gotten to the point where they've submitted something to the league to have it approved.
Essentially, what you have learned is that Montreal would give Brian Ching's contract back to Houston in exchange for a conditional draft pick?
Yes, for 2013.
Wow. So who's getting the upper hand here?
I think everybody wins. I really do believe that everybody wins here. I think Jesse Marsh gambled, and he got something in return. And I think the Dynamo, they win because they get Brian Ching for a much lower salary than he was going to make anyway. They're trading the pick for $200,000 in allocation money or something to that effect. You know, Montreal made the pick, so they were smart to make the pick, so they won. You know, they won in that sense. The Dynamo, they get their all-time leading scorer, their club icon, the guy, you know, who best represents the organization, and they get him at a discount. So on November 23rd, if Montreal doesn't pick Brian Ching, the Dynamo tomorrow or today, yesterday, 2 weeks ago, they're paying him $450,000. By having him back, the only way they were going to get him back was if he took a lower salary. So in essence, in a weird roundabout, they managed to save $200,000 in this whole process. Does that make sense?
Yeah, it does. But in the same way, in Montreal, I don't have the impression it's a good deal for the Impact, meaning that instead of picking another player elsewhere in the league, for instance, I don't know, like a Freddie Adu, that would have cost much more, you'd say, of course, but a player that can help out, and we end up with a draft pick in 2013, which might not be playing in Montreal until 2014.
If the Dynamo are as good as people are going to expect them, that pick isn't probably going to be worth very much. You're right. And they could have picked somebody else. So I guess, you know, it's up to Jesse Marsh to decide. They got something for nothing, and they gambled. And they gambled that they would try to, you know, both sides gambled, and both sides lost a little bit, and both sides won a little bit. I think I'm the eternal optimist, so I'm looking at it as, you know, they got something for nothing.
Alors voilà pour les propos de Jesus Ortiz du Houston Chronicle. Je suis pas bien ben d'accord avec lui quand il dit que les deux clubs ont gagné un peu et ont perdu un peu dans ce pari-là. Les grands gagnants de cette transaction-là, après ma barre, là, ce sont les Dynamo de Houston. Même Brian Ching est perdant là-dedans. Bon, il n'est pas obligé d'appeler le clan Panton pour déménager ses boîtes de Houston jusqu'à Montréal, là. C'est vrai. Mais il va se prendre une sérieuse coupure salariale. Et il va se prendre peut-être un 50% de baisse salariale. Il n'est pas à plaindre, là, 200 000 $ par année, c'est ce qu'on dit, est vrai. C'est pas mauvais là, pour jouer au soccer. Mais puis en plus, il y a une garantie d'emploi avec le Dynamo après la saison 2012, qui devrait être, à ses dires, sa dernière, à Houston, héros local. Écoutez, il n'est pas à plaindre en même temps, mais il n'est pas gagnant non plus. Et toute la boue qui a été lancée sur lui aussi dans ce dossier-là, de refuser d'aller jouer à Montréal, de faire une mini-grève, une mini-crise. L'impact n'est pas gagnant pour Saint-Saëns là-dedans. Là. Un choix au repêchage en 2013. Ça veut dire que les résultats du Dynamo de Houston cette année vont décider de l'ordre du choix. Alors, commencez tout de suite à prier que le Dynamo ait une saison de misère, alors que tout le monde les voit comme étant une des meilleures équipes cette année. Il est mieux d'avoir un bon bassin de joueurs disponible. Sans quoi, au lieu d'avoir un joueur qu'on aurait pu repêcher ailleurs en MLS, pour jouer cette année avec l'équipe, on va se retrouver avec un point d'interrogation dont on ne sait même pas s'il va jouer avec l'équipe avant 2014. Si on se fie à l'ordre de sélection de cette année, si Houston termine dans les, je sais pas, 3-4 premiers, Montréal se retrouve avec donc un autre choix au repêchage l'an prochain vers le je sais pas moi, 16, 17, 18e rang au repêchage. C'est pas un gars qui va pouvoir jouer en MLS régulièrement en 2013. Bottom line, la résultante, pas trop gagnant comme situation pour l'impact de Montréal. Bon, écoutez, on a dit qu'on allait laisser la chance aux coureurs. On va continuer de laisser la chance aux coureurs. Et j'espère que ce choix de première ronde-là, ou ce choix conditionnel-là, appelons-le par son vrai nom, le choix conditionnel que l'Impact a obtenu de Houston dans cette transaction, qui doit encore obtenir l'aval de la MLS au moment où on enregistre. J'espère que ça va être quelque chose de bien et qu'en bout de ligne, l'Impact sera gagnant. Mais ça ne regarde pas bien au départ et... Espérons que ce soit une simple erreur de parcours et qu'on saura corriger le tir à l'avenir. Mais l'avantage, c'est qu'on n'aura plus d'expansion, de repêchage d'expansion. Donc, ce genre d'exercice-là ne se répétera pas. Sur ce, on va aller maintenant rejoindre en Californie l'ami Patrick Leduc.
Bonjour, Philippe.
Alors, Patrick, l'équipe s'entraîne depuis plusieurs jours. Tu les as rejoints depuis dimanche ou lundi. D'abord, j'aimerais savoir là, de ce que tu as vu. Est-ce que tu as l'impression que ce groupe-là forme une équipe maintenant?
Ben, j'avais l'impression que oui. Je pense que les principes établis par l'entraîneur Jesse Marsh sont assez clairs et que les joueurs qui sont ici les respectent. Et je pense aussi qu'ils prennent confiance avec une victoire face au Galaxy de 3-0, même si le Galaxy n'avait pas le même engagement qu'il aura sûrement durant la saison. Je pense que c'est une performance encourageante et puis que les joueurs semblent contents d'être ensemble et qu'on a vraiment là, la naissance d'un noyau au sein de cette équipe.
Qu'est-ce qu'il faut lire des résultats qui ont été enregistrés là, par l'équipe depuis leur arrivée en Californie?
Je pense qu'il faut faire très attention aux résultats eux-mêmes. Ce que j'en décèle par contre, c'est que les performances sont de plus en plus encourageantes. L'équipe était satisfaite de son rendement face à Portland, alors qu'on a fait un match nul. Mais on avait non seulement réussi à tenir notre bout, mais on avait même dominé l'équipe de Portland sans arriver à marquer. Hier, en face aux Galaxies, ça a été vraiment une domination nette et puis une performance solide en défense et très très encourageante à l'attaque parce qu'on n'avait pas de Brian Ching, on n'avait pas de Justin Braun, puis on a quand même créé énormément de chances. Donc, tout ça, c'est très encourageant et bon, je pense que on veut se donner la mission de toujours jouer avec au moins ce niveau-là. Puis de cette façon, les résultats devraient être assez positifs.
On a une nouvelle, un nouveau bolide en défensive centrale, Matteo Ferrari. T'as vu notre nouveau porte-couleur?
Oui, il est arrivé hier à Los Angeles et il s'est entraîné pour la première fois ce matin. Il avait l'air heureux d'être enfin avec sa nouvelle équipe. Mais il faut dire qu'il est dans une période d'essai. Il y aurait une sorte d'entente de principe au niveau salarial entre Ferrari et l'Impact, mais je pense que Jesse Marsh insiste sur le fait que lui et le personnel d'entraîneur vont avoir la chance de l'observer et de s'assurer qu'il a un niveau suffisant pour vraiment aider l'équipe. Et puis, si c'est positif, ben on confirmera son embauche. Donc, je pense que c'est une acquisition très intéressante. Un joueur qui a 32 ans, qui a l'air en très bonne forme. Alors, j'ai bien hâte de le voir à l'œuvre dans un match qui comptera, mais c'est définitivement intéressant de pouvoir compter sur un joueur qui est motivé, qui a envie d'être ici.
Bon, moi, j'ai personnellement, là, je me suis tiré le cou un peu en allant dire que l'Impact, au retour de la Californie, allait annoncer l'embauche de Nevio Pizzolitto, mais est-ce que tu penses que ça pourrait changer la donne, cette histoire-là, pour Nevio?
J'ai l'impression que oui, malheureusement pour Nevio, ça complique drôlement sa mise sous contrat. J'ai l'impression, bon, on nous dit que dans le cas de Ferrari, c'est une rencontre un peu fortuite. On est tombé sur lui sans réellement chercher ou être à la recherche d'un nouveau défenseur central. Il faut dire aussi qu'il y a une blessure à Asun Kamara qui amplifie le trou qu'on a à cette position-là. Mais c'est certain que pour quelqu'un comme Nevio Pizzolitto, ce n'est pas une bonne nouvelle, puisque ça, non seulement ça réduit ses chances d'être sur le terrain, mais en fait, ça réduit ses chances d'obtenir un contrat. Je dirais que le temps risque de manquer parce qu'on risque de prendre une décision assez prochainement dans son cas et dans le cas de Simon Gatti. Probablement qu'on aura décidé avant de se rendre à Orlando pour disputer le tournoi amical contre d'autres équipes de la MLS.
Sinon, Mircea Ilcu et Eduardo Sebrango, est-ce qu'il y a du neuf dans leur cas que tu as pu remarquer? Est-ce qu'ils sont utilisés?
Ce que je peux dire sur Eddie Sebrango, c'est que ça va plutôt bien sur le terrain dans son cas. Il a joué un très bon match hier. Il a créé de nombreuses chances. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est en train de convaincre tout le monde qu'il mérite sa place. Non seulement en jouant bien sur le terrain, mais aussi en étant une sorte de guide ou de mentor pour plusieurs autres joueurs. Ce n'est pas seulement le personnel d'entraîneur qui est impressionné avec Sebrango, c'est aussi des joueurs qui ont joué longtemps à MLS, comme David Arnault, qui a dit avoir été impressionné. Et en fait, on sent que Eddie fait beaucoup d'heureux autour de lui. Il amène le sourire. Donc, je n'irais pas jusqu'à dire que que c'est déjà marché conclu dans son cas, mais je pense que c'est positif et qu'il n'aurait presque pas pu souhaiter mieux à ce stade-ci. Et pour ce qui est d'Ilcu, ben il est blessé depuis le match à Houston. Il semble avoir un problème, pas nécessairement musculaire, si c'est pas nerveux, mais on risque de le garder à Montréal là au lieu de l'emmener en Floride pour lui donner le temps de se reposer. Et éventuellement, j'imagine qu'il reprendrait l'entraînement avec l'académie plutôt qu'avec l'équipe professionnelle.
Il pleuvait quand tu étais arrivé en Californie. Est-ce que le temps s'est amélioré un peu?
Il a fait beau pendant le match d'hier, mais aujourd'hui, la pluie est revenue. Il fait un peu froid, à ce qu'on me dit, par rapport aux standards de Los Angeles. Mais on annonce du beau temps pour demain, là. Alors j'espère pouvoir profiter d'une belle journée avant de quitter.
Ben, écoute, j'ai trouvé le dénominateur commun. Yvan Delia-Lavictoire est en Californie avec vous. Et il est venu avec moi en Californie pour la Coupe de la MLS et il faisait un temps vraiment atroce. Fait que c'est peut-être ça le dénominateur commun. Là. Gardez-le dans sa chambre d'hôtel, vous allez peut-être vous en sortir avec du beau temps.
Ah, c'est certainement ça, Philippe. la clé d'énigme.
Ben voilà, bon retour au Québec. Bonne fin de voyage, puis au plaisir de se reparler la semaine prochaine.
OK, à la prochaine.
On va se tourner maintenant du côté de notre sondage de la semaine. Raphaël, la question cette semaine, c'était « Pourquoi l'Impact de Montréal n'a pas vendu plus d'abonnements de saison à un mois de son premier match en MLS? » On rappelle que le chiffre était un petit peu plus de 7000 abonnements de saison. Et voici ce que les gens ont répondu.
Presque deux répondants sur trois ont répondu qu'il n'y avait pas suffisamment d'efforts sur le plan marketing par le club. Et ensuite, la deuxième réponse qui est ressortie du lot, c'était que presque le quart des répondants ont mis la faute sur l'absence de joueurs désignés. Et ensuite, 8% ont répondu que c'était seulement en raison du contexte économique actuel. Et 5% chacun ont indiqué que les gens boudaient suite à une saison 2011 moribonde ou en fait que les billets de saison, ce n'était vraiment pas 2012.
Bien, chers amis, je crois qu'en partie, le président de l'Impact de Montréal vous a entendu, du moins là, le quart des répondants, puisqu'il a changé son fusil d'épaule. Oui, oui, il y a quelques mois, avant qu'on s'approche vraiment là, d'être en MLS, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le président de l'Impact, Joey Saputo, était plutôt ambivalent à l'idée d'avoir un joueur désigné. Et c'est au point où il disait, écoutez, il y a Houston, notamment, le Real Salt Lake, notamment, qui a bien fait, sans avoir de joueur désigné, qui a gagné des coupes de la MLS. Alors, il y a cette option-là qui est possible. Et voici ce qu'il a raconté aujourd'hui, ou ce qu'il a répondu à notre consoeur de TVA Sport, Elisabeth Rancourt, sur la question des joueurs désignés.
Je l'ai toujours dit que Montréal a besoin d'un joueur désigné. Et comme club, je veux avoir un joueur désigné parce que, honnêtement, je pense que Montréal le mérite. Mais comme j'ai toujours dit, c'est que il faut que les conditions soient bonnes.
À l'époque où il disait que Real Salt Lake était un bon modèle, qu'il n'avait pas de joueur désigné, que c'était une belle option, ben maintenant notre président nous dit qu'il a toujours cru que Montréal avait besoin d'un joueur désigné. Ben la bonne nouvelle, c'est qu'on aura un joueur désigné maintenant. Avec ce qui était sorti du week-end via Twitter, eh bien, Joey Saputo aurait une entente de principe, du moins un accord là, verbal avec un joueur, mais on ne peut pas aller plus loin puisqu'il y a des réalités contractuelles. Donc, les négociations se sont probablement faites avec des agents et on aurait donc en vue un transfert lorsqu'il y aura la période du marché d'été, donc au mois de juillet. Et avant ça, bien, il y aura la fin de la saison en Europe là, d'ici au mois de mai. Alors, il n'y aura pas d'annonces qui seront faites avant plusieurs mois et pas d'arrivée à Montréal. J'ai bien l'impression avant le marché d'été. La question cette semaine, à la suite de la transaction qui retourne Brian Ching au Texas. Êtes-vous satisfait de la transaction entre le Dynamo de Houston et l'Impact de Montréal? Vous avez trois choix de réponse. C'est simple. Oui. Non. Ou on verra plus tard selon l'identité du joueur repêché par l'Impact. Alors allez voter sur le soccerplus.wordpress.com et nous dévoilerons les résultats de ce sondage maison, bien sûr. Sondage maison, c'est pas un sondage scientifique, mais pas du tout. Mais ce sondage maison, nous aurons les résultats dans l'émission de lundi prochain. Pour revenir sur la question Brian Ching, je voulais en parler avec notre collaborateur Marc Touga qu'on accueille à l'instant. On parlera de d'autres sujets aussi. Il y a eu la visite de Don Garber et ça a suscité beaucoup de questions et de sujets. Marc, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Brian Ching s'en va à Houston, donc contre un choix conditionnel pour 2013. En gros, l'Impact a soulagé Houston de 200 000 $ sur sa masse salariale et obtient un gars qui va peut-être jouer avec l'équipe en 2014-2015. Qu'est-ce que ça te suscite comme émotion d'abord?
Pas grand-chose, parce que comme je dis toujours à mon entourage à ce moment, c'est comme que ce soit un joueur ou un autre, que ce soit Rivas ou Ferrari qui soit défenseur attitré ou de premier plan pour le club, on s'en fout à ce moment-ci, il n'y a aucun attachement émotif. Donc, tant mieux. Ben, je dis, c'est tant mieux si c'est réglé, parce qu'au moins ça fait une distraction de moins dans l'entourage de l'équipe. C'était clair que Ching ne voulait pas jouer à Montréal. C'était un peu étonnant le premier jour du camp d'entraînement qu'on lui permette de l'avouer aussi explicitement, mais tant mieux si c'est réglé, ça fait on a un cas problème de moins.
Oui, mais la question aussi, c'est de savoir quelle était l'idée de repêcher Ching. Tu vois, j'ai parlé avec Glenn Davis, qui est animateur de radio à Houston. Malheureusement, là, l'entrevue a été faite avant la transaction, donc je pouvais plus utiliser cette entrevue-là. Mais ce qu'il me disait, lui, c'est que jamais au grand jamais, lui, de Houston, a cru que Montréal a repêché Ching pour le faire jouer. C'était vraiment pour essayer d'aller chercher André Hainaut, qui, lui, avait été protégé, mais... Il y a, à quelque part, je questionne la stratégie derrière le choix de Ching par Montréal.
Ça, Houston, même si c'était improvisé, ça ne s'est pas passé comme ils l'avaient prévu. Et on peut dire qu'ils en sortent gagnants. De toute évidence, ils en sortent gagnants parce qu'ils ont leurs joueurs puis ils ont obtenu une réduction de salaire. L'impact, c'est moins sûr. Moi, qu'est-ce que je me demande, c'est... Au départ, la personne qui a décidé, oui, on repêche Ching, on a quelque chose à gagner là-dedans... qu'est-ce qui fait que cette personne-là a décidé de faire ça? Puis est-ce que c'est la même personne qui a changé d'idée à ce propos-là ou c'est une autre personne qui a mis pression pour faire renverser la décision initiale? Parce qu'on semblait prêt à faire patienter très longtemps pour pouvoir monnayer cette situation-là au profit de l'impact. Puis je pense que ça a l'air, selon les apparences à l'heure actuelle, c'est raté.
Si on veut être positif, on dira que c'est un pari raté. Si on va plus loin, je serais tenté, sans dire là, que c'est un manque de compétences, mais c'est un manque d'expérience évident là, qui sort de cette situation-là. Moi c'est mon avis. Là. Autour de la table, là, présentement, il n'y a pas grand monde qui avait beaucoup d'expérience en MLS, à part March comme joueur. Mais honnêtement, là, je pense que c'est ça qui ressort de cette situation-là. Je voulais t'amener maintenant sur la visite de Don Garber. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette visite-là? Bon, c'est une visite d'usage, là, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont ressorti, selon toi, de son point de presse et de son discours?
C'est toujours difficile parce que c'est une conférence qui ressort, c'est plus dans le but peut-être de courtiser la communauté des affaires. Le discours était prononcé devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Moi, je m'attendais à des chiffres sur l'impact économique de la MLS que représente pour une ville. On n'a pas eu ça. Ça a été un discours de 15 minutes, ce qui est très court, parce que je sais que l'année passée, ou il y a deux ans, j'étais allé dans des circonstances similaires, j'étais allé voir un discours de François Dumontier, le grand patron à Montréal de la course automobile. Et ça va durer tout longtemps, puis ça avait été beaucoup plus... il y avait des éléments plus concrets. Mais quand même, c'est un bon tour d'horizon de la MLS, c'est quoi, puis qu'on passe vraiment à un autre niveau. Donc, c'était le but, c'était conscientiser, si on veut, les hommes d'affaires, puis ça pourrait permettre d'attirer d'autres... commandites ou à tout le moins peut-être des abonnements de saison pour l'impact dans les loges ou dans les sections plus dispendieuses. Donc, ça pourrait avoir des retombées. À part de ça, bon, des choses que je retiens, c'est comme M. Garber l'a relevé, le fait que la MLS tient beaucoup à aider l'Association canadienne à, si on veut, renflouer, à développer le soccer canadien, à développer des joueurs canadiens de qualité. Ce qui profiterait à l'équipe canadienne et peut-être leur donner des meilleures chances de se qualifier pour la Coupe du Monde. On pourrait penser que la MLS est de plus de connivence avec la Fédération américaine, puis on se fout un peu du Canada. On cherche à profiter qu'il y a des équipes au Canada, peut-être par défaut parce qu'il n'y a pas des meilleurs marchés aux États-Unis à l'heure actuelle. Mais non, M. Garber a beaucoup mis l'accent sur ça, en mettant l'accent que si la MLS a connu autant de succès depuis 10 ans, pris son envol, c'est parce que l'équipe, la sélection américaine a eu énormément de succès au niveau international en Coupe du Monde. Donc, il veut reproduire un peu la même affaire au Canada. Donc, c'est quand même un élément marquant qui nous permet de nous rassurer, justement, peut-être avoir espoir pour l'équipe canadienne.
En même temps, c'est pas à coup. En même temps, Marc, c'est pas à coup de 3 joueurs comme quota de joueurs canadiens qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde, là, mais bref.
À petit pas. Non, il y a la petit pas.
Ouais, ouais, c'est ça. Restons positifs. Mais sérieusement.
Dans 50 ans, si on se qualifie pour la Coupe du Monde, on dira que c'est là que ça commence. Monde, on va, c'est pas grave, au moins, il aurait fallu passer à travers ça.
L'histoire, risque de se répéter en termes de succès de matchs de soccer professionnel de première division nord-américaine au Stade olympique. On vise à battre le record qui a été signé d'ailleurs par le match entre le Manic de Montréal et le Sting de Chicago dans les années 80. Là, on a annoncé mercredi qu'on avait dépassé le cap des 32 000 billets pour le match d'ouverture. Moi, il n'y a pas de doute dans mon esprit qu'on va remplir le Stade olympique pour ce match-là. Je peux pas croire qu'on va être en bas de 58 000.
Si on ne bat pas le record, on va être très prêt, puis on sait de la manière que ça fonctionne quand on annonce la foule. Si on est prêt, ça veut dire qu'on va avoir plus que 58 000, 542, là. Donc, c'est que, puis, ben, comme beaucoup de gens me disent, mais là, l'important, c'est qu'est-ce qui va suivre après, mais je suis quand même confiant que pour les autres matchs au Stade Olympique, cette saison, du moins, il va, moi, j'ai même fait un petit pari amical, là. J'ai pas gagé d'auto, là, dans mon cas, contrairement au boxeur Jean-Pascal, mais juste un petit pari amical sans conséquence. Qu'il va y avoir 30 000 pour tous les matchs au Stade Olympique cette saison, je suis confiant, ouais. Je suis pas mal sûr, parce que l'effet curiosité va être là. Puis, c'est des acquis, on le sait, on l'a vu avec le Manic. Le Manic est arrivé de nulle part, un peu dans un vacuum à l'époque, est arrivé de Philadelphie. En même temps, ce record-là de 58 000 est établi dès la première saison du Manic. Puis on peut pas dire, la Coupe du Monde n'avait pas été à la télé, c'était seulement en 1982 que la Coupe du Monde a été télédiffusée à Radio-Canada. Donc on peut pas, les chiffres du membership des jeunes joueurs de soccer au Québec avaient commencé à augmenter, mais on peut pas dire que le soccer est un sport accepté au Québec de façon générale, au sein de la société en général. Donc c'est un petit peu une surprise. C'est sûr qu'il y avait eu la grève du baseball majeur pendant une partie de l'été qui a aidé le fait, mais quand même le record a quand même survenu pendant les séries, donc au mois de septembre, donc quand le baseball avait repris et même les Expos avaient gagné le championnat. Donc il y avait quelque chose de spécial. Puis ça partit, même si ensuite on est retombé beaucoup plus bas avec la Ligue canadienne, la PSL, etc., etc. Ça a quand même gardé une petite flamme allumée. Puis qu'est-ce qui fait que maintenant il y a une base, le soccer amateur québécois continue de progresser avec les centres de soccer intérieur. On pratique sur 12 mois. Il y a des sports études partout. C'est beaucoup structuré. On a des entraîneurs à temps plein dans toutes les régions, même les clubs maintenant. Donc la base est là pour qu'il y ait des 58 000, des 30 000, des 40 000 régulièrement au match, puis même si l'Impact fait bien son travail, à moyen terme, je vois même une époque, à moyen terme ou à long terme, où le stade Saputo va être désuet, on va vouloir jouer au Stade Olympique, parce que on va vouloir monnayer le fait qu'il va y avoir la demande assez pour avoir 30, 35, 40 000 à tous les matchs ou presque.
Ouais, moi, j'embarque avec toi à 100 000 à l'heure, là. Je crois aussi qu'il va y avoir 30 000 dans les 4 matchs au Stade Olympique, 4 ou 5 matchs, là, je ne me rappelle plus trop, qui vont suivre le match d'ouverture contre Chicago. Là, je pense qu'ils jouent contre quoi? Los Angeles, New York, Portland et Toronto. Donc, c'est 4 matchs qui suivront. Et j'ai pas de crainte là, là-dessus. Je crois aussi que les gens de Montréal vont réagir très, très bien là, à cette première année de l'Impact en MLS. Puis après ça, ben, on a juste 23 000 à remplir. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué pour le reste de l'année.
Au Stade Saputo, ça va être un succès aussi. Ça va être sympathique.
Ben oui,
mais il faut que le travail soit bien fait quand même. Ça n'empêche pas. Je suis sûr que Joey Saputo en est conscient. Il faut que le travail soit bien fait. Pour un Santos Laguna, 55 000, oui, ça peut venir de nulle part. C'est sûr qu'il n'y avait pas une armée de vendeurs de billets comme il y en a maintenant à l'Impact. Donc, 55 000, ça a été un petit peu une surprise. Et peut-être l'effet d'entraînement, le bouche-à-oreille, va être un gros facteur pour le premier match. Mais si on veut que ça soit soutenu pour au-delà des 5 matchs de cette année, que ça se poursuive l'année prochaine, il faut qu'il y ait un travail de base qui se fasse à l'Impact pour s'assurer que l'équipe reste crédible et que les gens qui doutent encore, qui vont venir peut-être pour un match, mais peut-être faire un bon travail pour les convaincre d'acheter des abonnements de saison l'année prochaine.
Oui, parce que si on arrive au 18 août, au match numéro 27, l'équipe a une fiche de 8 victoires et 18 défaites. Le match contre San Jose un samedi soir du mois d'août, là, il risque d'être un petit peu plus dur à vendre par l'équipe de vendeurs.
Ça dépend. Si on a du fun quand même, le Manic n'était pas une équipe gagnante, mais c'était une équipe attrayante. Il y avait des joueurs avec du charisme. C'était le fun. Même s'ils perdaient 4-2, c'était un match le fun à regarder. Et tout le monde s'amusait avec du fun. Mais il y avait les Ultras 212 aussi qui aidaient l'atmosphère. On allait voir le spectacle dans les gradins, pas juste sur le terrain. Donc, c'est tout ça qui fait... Ça, même avec une fiche de 8-18, comme tu dis, ça pourrait être le fun quand même pour cette année. C'est sûr que dans 3 ans, si on a encore une fiche, on a 2 fois, 3 fois plus de défaites que de victoires, ça va être une autre paire de manches. Mais pour cette saison, tout dépend de l'allure, de l'attitude que les joueurs vont avoir sur le terrain.
Bien, Marc, merci beaucoup encore une fois pour ta participation. Puis, étant donné qu'il y a toujours une histoire qui nous rebondit en plein visage en cours de semaine, bon, on aura certainement de quoi de pas mal intéressant à se parler la semaine prochaine.
Il dit que la saison n'a même pas commencé.
C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Merci, Marc.
Salut.
Cette semaine, dans le monde du soccer.
L'Impact de Montréal a remporté son premier match préparatoire contre une équipe de la MLS mardi en battant le Galaxy de Los Angeles 3-0. Sana Niasi, Zarek Valentin et Evan James ont inscrit les buts des Montréalais qui ont aussi fait match nul de 0-0 contre Portland et ont perdu 2-0 face à Houston et 1-0 contre Chivas USA. La W-League a dévoilé son calendrier 2012. Les Comets de Laval et le Fury d'Ottawa entameront leur campagne le 26 mai à London et à Rochester, respectivement, tandis que l'Amiral de Québec disputera son premier match le 1er juin dans la vieille capitale face à London. Simeon Jackson et Désiré Scott ont été nommés joueurs canadiens du mois de janvier par l'Association canadienne de soccer. Par ailleurs, Dwayne DeRosario et Kaelin Cal ont reçu le prix des partisans de l'Association canadienne de soccer pour l'année 2011. Après avoir marqué le but gagnant permettant à son club d'accéder aux demi-finales de la Coupe d'Allemagne, Olivier Océan a marqué son 11e but de la saison pour Fürth dans un gain de 5-1 contre Paderborn pour ainsi grimper au deuxième rang de la D2 allemande. La saison de l'international canadien Marcel Dejong pourrait être compromise. L'Ontarien s'est blessé à la 8e minute de jeu dans le match d'Augsbourg contre Nuremberg en Bundesliga allemande. Une opération pourrait être au menu, ce qui l'écarterait de l'action pendant de nombreuses semaines. En terminant, rappelons que la Zambie a surpris la Côte d'Ivoire 8-7 sur pénalty après un nul de 0-0 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2012.
Parlons maintenant MLS avec notre correspondant en Philadelphie, Jonathan Tannenwald. Bonjour, Jonathan.
Bonjour, Philippe. L'hiver passe rapidement, n'est-ce pas?
Eh là là, c'est le printemps, mon cher ami. Tu sais que la marmotte file, bien, ici, c'est moi. Hein? Alors, moi, je dis toujours le 23 février, après ça, c'est le printemps qui commence. Parce que le printemps février, moi, je change de printemps après le 23 février. Donc, je dis toujours que l'hiver est terminé après ma fête. Cela dit... Vous pouvez m'envoyer des cadeaux en passant, là. C'est pas très compliqué. Vous pouvez envoyer ça par courriel, ça va me faire plaisir. Jonathan, il y a une annonce qui est sortie mercredi même, celle de l'ajout pour le Crew de Columbus d'un nouveau partenaire pour leur maillot. C'est une compagnie de produits de rasage.
Oui, il s'appelle Barbasol. Et si vous connaissez le comedy musical Guys and Dolls, vous connaissez peut-être ce nom qui est une compagnie très vieille, en fait. Ils existent depuis très longtemps et je dois penser à qu'est-ce que les gens sur les crews comme Eddie Gavin et Danny O'Rourke qui ont des barbes et des moustaches, qu'est-ce qu'ils pensent de ce contrat? Je veux savoir.
Ça va être intéressant aussi si le crew de Columbus va en séries éliminatoires. Ça va mal paraître là, d'avoir Barbosa et une barbe des séries en même temps.
Oui, ça peut être un problème. On verra.
Et là, ce que ça veut dire, c'est qu'il reste quoi? Trois équipes, possiblement, là, qui n'ont plus de commanditaire de maillot.
Ah, sache que je sais, les clubs qui restent sont Colorado, San Jose et Kansas City. Et je dois croire qu'avec leur nouveau stade, Kansas City va trouver un sponsor de maillot à quelque point bientôt. Et je sais aussi qu'à Colorado et San Jose, c'est un très grand problème pour leurs supporters parce qu'ils... Je sais que les deux groupes de supporters pensent que leur front office, peut-être on peut dire leur président, leur côté de business de leur équipe, ne travaille pas assez fortement pour trouver un sponsor de maillot et l'argent qui vient avec le sponsor. Ça, c'est très grand pour les équipes de la MLS.
Et ça, c'est un signe, Jonathan, que la Ligue va de mieux en mieux. Là, quand on dit que sur 19 équipes, il y en a 16 qui ont des commanditaires de maillot, c'est énorme.
Et San Jose avait un sponsor de maillot jusqu'à l'année dernière, c'était Amway. Et je sais que c'est une compagnie un peu controversiale à cause de comment ils font leur business. Mais à mon avis, bien on sait que par exemple Rio Tinto qui est le sponsor du stade du Real Salt Lake, on sait qu'ils sont très controversiaux pour les gens qui suivent les nouvelles de l'environnement. Il y a un point sur lequel il vaut mieux avoir un sponsor que pas.
Oui, c'est certain. Puis tu parles de deux entreprises qui ont quelque chose à voir ici parce que Amway est maintenant le commanditaire titre du championnat canadien de foot et Rio Tinto, c'est énorme parce que c'est ceux qui ont acheté Alcan, qui est un géant de l'aluminium ici au Québec. Parlons maintenant de et je veux revenir parce que Il y a l'équipe de la Nouvelle-Angleterre qui a signé l'an dernier un commanditaire de maillot. Ça a fait une assez grosse différence, peut-être pas sur le terrain, mais ça a peut-être sauvé un peu les meubles financièrement pour cette équipe-là.
On peut espérer pour ça, parce que il y a plusieurs gens à Boston et hors du Boston qui croient que le Revolution sont le petit frère dans la famille du Kraft, qui possède aussi les New England Patriots, et tout le monde connaît qu'ils sont un des plus grands clubs dans la NFL. Et depuis très très longtemps, la Revolution n'avait pas de sponsor sur leur maillot. Alors, d'avoir trouvé un sponsor et même une grande compagnie comme United Healthcare est très important. Et je sais que pour les Canadiens, l'assurance de santé commerciale n'est pas une si grande un business comme il est aux États-Unis. Mais pour nous ici, c'est très important.
J'imagine, oui. Non, en effet, j'ai pas cette réalité-là ici au nord de la frontière. Je voulais parler avec toi aussi de quelque chose. Tu sais que Don Garber était en visite à Montréal cette semaine et il a mentionné à un point que éventuellement, ben, il l'a pas mentionné. En fait, je vais me corriger. Et si on lisait entre les lignes, on a l'impression que la MLS s'en va tranquillement vers un calendrier qui serait parallèle à celui qu'on voit en Europe, à savoir un calendrier qui commence à l'automne avec une pause hivernale et qui se termine au printemps. Et je sais, parce que j'ai parlé avec des gens de Fox Télévisions quand j'étais à la Coupe de la MLS à Los Angeles, et je sais qu'il y a de la pression qui est mise par Fox auprès de la FIFA, puisque Fox a signé le contrat là, pour la diffusion des matchs de la Coupe du Monde aux États-Unis. Et il y a de la pression qui est mise par Fox auprès de la FIFA pour que la MLS adopte ce calendrier-là. Mais je ne sais pas si ça fait l'affaire de tout le monde, par contre, en MLS.
Je vous remercie pour avoir dit ça en public. Et je suis assez sûr que tout le monde qui habite à Philadelphie, à Chicago, à Seattle, à New England, à New York, à Washington, à Columbus, à toutes ces villes où il fait froid dans l'hiver, vont vous remercier pour mettre ça dans le domaine public. Il y a deux raisons pourquoi il n'y aura pas une saison hivernale dans la MLS, à mon avis. Le premier est qu'il faut que la température globale hausse 10 degrés Fahrenheit.
On s'en va par là, en tout cas.
Oui, well, le deuxième, et voici la question. Eric Winalda a dit, cette année, dans la NCAA Convention à Kansas City, j'étais dans la salle, il a dit, il ne faut pas jouer la Coupe MLS au même temps que la NFL. OK, est-ce qu'on va jouer la Coupe MLS au même temps que la NFL ou est-ce qu'on va jouer la MLS au même temps que la saison entière de la NFL? Et si on prend la pause pour 3 mois, comme Eric Winalda suggère, qu'est-ce qui va se passer avec l'intérêt de la Ligue? Ça va disparaître, à mon avis.
C'est certain qu'on ne peut pas comparer l'Amérique du Nord et l'Europe. Là, ce sont deux créatures complètement différentes. La culture sportive est complètement différente. Mais je sens en même temps qu'on veut peut-être opposer la MLS à la NBA et à la Ligue nationale de hockey, peut-être, par contre.
Non, parce que si on joue hiver et printemps, on perd l'été quand la NFL et la LNH et la NBA ne jouent pas. Et c'est un peu pourquoi les Coupes du Monde sont toujours très populaires aux États-Unis parce que rien d'autre ne se passe dans notre sport.
Mais pour qu'il y ait de la pression par un réseau de télévision aussi important que Fox, c'est peut-être parce qu'on croit de leur côté qu'on serait gagnant au niveau des audiences télévisuelles. Parce que je sais, je l'ai vu moi ici au Canada aussi, c'est pas mal difficile d'avoir un auditoire captif l'été à la télévision. C'est très difficile. Et surtout, bon, dans le cas là, d'ici, en deuxième division, on n'était pas capable d'avoir des rendez-vous toujours à la même heure et toujours le même jour. Là. Mais c'est compliqué d'aller chercher les gens l'été à la télévision. Ben, ça doit être la même chose aux États-Unis.
C'est compliqué de les chercher à la télévision, mais c'est beaucoup plus facile pour les chercher au stade. Et nous savons que le foot est un jeu qui met plus d'importance sur être dans le stade qu'aucun autre sport. Et je vais parler un peu de la politique ici et je m'excuse pour ça. Nous savons que Fox et son patron Rupert Murdoch, ils veulent ce qu'ils veulent dans le monde. Du sport, de la politique, des journaux comme le Sun et le News of the World, en Angleterre, avec Fox News et tout ça. Ils veulent ce qu'ils veulent. Et pour dire que Fox met de la pression sur FIFA pour recevoir ce qu'ils veulent, où se trouve leur évidence que la MLS va gagner plus de chiffres à la télévision si le jour hiver et printemps qui se jouent en été, je ne le vois pas, moi-même. Parce que je ne veux pas être à PPL Park, ou à Red Bull Arena, ou à RFK Stadium, ou à Stade Saputo, ou à BMO Field en février. Je veux y être en juin et juillet.
Ben, on fait juste penser à la Coupe de la MLS qui a été jouée à Toronto. On voit les chiffres officiels quand on voit les rapports de match que le stade était plein. Bon, on sait très bien, toi et moi, que le stade il n'était pas plein à BMO Field. Alors, mais tu crois pas que les gens se déplaceraient pour aller voir leur équipe? Là, si jamais la décision est prise qu'on s'en va par là, à Philadelphie, là, on remplirait pas PPL Park avec des matchs au mois d'octobre-novembre, tu penses pas?
Octobre et novembre, oui. Décembre et février, je ne pense pas. Ouais, mais si même s'il y a 65... C'est 1000 gens qui veulent aller au match de la NFL est complètement différente à tous les autres sports.
Mais Jonathan, justement, le fait là, qu'on ferait cette pause-là, mettons on fait la pause décembre, janvier, février, il n'y a pas moyen de moyenner à ce moment-là? Je comprends.
À mon avis, ce n'est pas assez.
Non, mais je comprends ton argument là, qui dit que c'est difficile de garder l'attention captive quand on coupe 3 mois. Mais je sais pas. Écoute, nous, à Montréal, du moins, là, les 3 derniers mois, là, on a l'impression que l'équipe joue tellement que d'informations sur le soccer comme il n'y en a jamais eu. Peut-être que c'est parce que c'est notre première année. Tu peux me dire, là, à Philadelphie, vous avez vécu la même chose il y a quelques années. Peut-être que c'est exactement la même chose, là, que c'était la folie au niveau des informations avant que l'équipe commence à jouer pour sa première saison. Mais ici, là, les 3 derniers mois, excusez-moi, mais ça n'a pas été une saison morte, mais pas du tout. Là.
C'est un peu être dans... C'est deux choses, à mon avis. C'est un peu être dans la première saison... C'est aussi, vous n'avez pas de la NBA à Montréal. Vous n'avez pas du basket universitaire ou du foot universitaire à Montréal comme on a aux États-Unis.
Bon point.
Il y a moins de compétition entre les plusieurs sports pour l'impact. Et comme on a dit déjà, si le Canadien était meilleur cette saison, est-ce qu'il y aura tellement d'attention pour l'impact? Je pense pas.
Ouf, ça c'est peut-être un peu vite dit, mais c'est vrai que de toute façon, le 95% de l'attention est déjà sur le Canadien. Ça ne changera pas là, ça à ce niveau-là. Ben, du moins, c'est pas pour bientôt si c'est pour changer. Mais je pense qu'il y a de la place pour les deux. Puis non, au contraire, écoute. Bref, on pourrait en parler pendant bien longtemps. Jonathan, merci.
Je veux dire une chose oui, tout aussi. Et vous n'avez pas deux choses en fait. Là, vous n'avez plus de baseball.
Non, c'est vrai.
Qui occupe beaucoup de gens en février qui attendent le spring training. Le deuxième est, en cette année, pour la première fois dans son histoire, la MLS et ESPN ont bougé la date dans la semaine de la finale de la Coupe MLS d'un dimanche où se joue la NFL à un samedi. Et c'est un samedi en décembre où il n'y a pas autant de foot universitaire. Et on verra si ça a un impact. Je pense que ça va avoir un impact.
Ben, j'espère bien. Moi, j'aime le calendrier actuel. J'aime la saison morte aussi, comment elle est, bien qu'elle est très courte. Mais tant mieux. Ça nous fait plus de foot. Et même pendant la saison soi-disant morte, on a encore bien des sujets. La preuve, cette émission. Merci, Jonathan, et on se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
Et de ce pas, on va rejoindre Kevin Cossette. Bonjour, Kevin.
Bonjour.
Écoute, tu as participé à ce combine, ce camp de dépistage de la NASL. Comment ça s'est passé?
Ça s'est quand même très bien passé. C'est sûr que je suis arrivé là le jeudi soir, le 9. On avait dans le fond 3 matchs préparatoires, 3 matchs hors concours à faire entre les joueurs, tous les joueurs qui étaient là au combine. Il y avait 4 équipes, on était divisé en 4 équipes. C'est sûr que ma moins bonne journée était le vendredi avec tout le voyagement et tout ça, qu'est-ce que ça l'implique là. J'étais pas à mon 100%, là. J'avais un peu les jambes lourdes et tout ça. Mais par la suite, j'ai commencé à reprendre un peu mon souffle là, avec ça. Là. Puis dans le fond, le samedi, ça a vraiment bien été. Là. J'ai été auteur d'un but avec une passe décisive aussi. Puis le dimanche, dans le fond, ça s'est quand même très bien déroulé aussi, malgré que le fait qu'on était dominé mon équipe contre l'autre équipe contre qui on jouait. Mais je pense que j'ai réussi à laisser quand même une bonne impression là, au niveau de la ligue là, qui était là-bas. Là.
Est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est stressant de te retrouver comme ça dans ce contexte-là où tu dois performer là, pratiquement sur demande avec et de jouer, parce que c'est un sport d'équipe, de jouer avec des gars que tu n'as jamais vus de ta vie dans bien des cas?
Je dirais que quand je suis parti au combine, j'étais pas trop stressé. Je sais pas pour être un peu prétentieux ou quelque chose, c'est que dans le fond, ça faisait longtemps que j'attendais une opportunité pour pouvoir me reprouver, en fait. Là. Ça faisait quasiment un an là, que je travaillais fort. C'est sûr, maintenant avec le Rouge et Or ici à Québec, mais ça faisait un an que je travaillais fort pour essayer d'au moins d'avoir une chance de me replacer quelque part. c'est sûr que là, cette chance-là est venue, mais c'est sûr que du côté, ça a été stressant un coup rendu là-bas, parce que oui, effectivement, moi, je joue milieu gauche, mais le défenseur gauche, mais je le connaissais pas du tout, puis c'était pas nécessairement quelqu'un de très fort non plus. C'est sûr que s'adapter aux joueurs en si peu de temps, c'est extrêmement difficile. Il nous demandait vraiment là, d'essayer de se connaître très rapidement, de se redemander les noms des joueurs tout le temps. Puis tu voyais que plus que ça avançait dans le combine, mieux les joueurs étaient, mieux le jeu était, parce que tout simplement, on commençait tout simplement un peu plus à connaître. Là. Mais c'est sûr qu'au début, là, le premier match était brouillon, le deuxième match, ça a été beaucoup mieux. Puis le dimanche, on voyait que même avec la fatigue, tout le monde commençait un peu plus à se connaître. Mais c'est sûr qu'au niveau de la chimie, là, ça a été difficile. Là. C'est difficile parce que tout le monde essaie d'un peu trop d'en faire un petit peu plus pour essayer de ressortir, mais en même temps, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire non plus. Puis on l'a vu le vendredi là, que c'est ça que les joueurs essayaient de faire, mais ça menait à rien là, vraiment. Là.
Est-ce que tu as quelque chose qui ressort là, de ce combine-là, concrètement, là, au moment où on se parle, là, le 15 février 2012, est-ce qu'il y a une offre qui a été faite à Kevin Cossett?
En ce moment, j'ai aucune offre. C'est ce qui est un peu dommage, c'est que je m'attendais peut-être pas à pas rien recevoir, mais c'est sûr que c'est en processus. La personne avec qui je fais affaire, avec qui je travaille, c'est sûr qu'il travaille très fort en ce moment pour essayer de me placer, parce que oui, je dois jouer. Puis je pense aussi que mon temps est venu avec tout ce que j'ai fait. On pense aussi, on est dans la même direction que là, je dois avoir des minutes quelque part. Puis avec la performance que j'ai donnée, quand même, que je dirais le samedi, j'ai quand même confirmé que j'étais capable de jouer à ce niveau-là. Sauf qu'après ça, est-ce qu'il y a une équipe qui va me donner ma chance? C'est sûr que ça serait... ça va prendre une équipe qui va vraiment me donner ma chance de pas me prouver, là. Parce que je pense que je suis revenu du combine, puis je suis revenu quand même satisfait de moi, là.
Est-ce que ça a été difficile pour toi, après ta séparation avec l'organisation de l'Impact de Montréal, sur le plan psychologique, mental, là, de rebâtir ta confiance? Est-ce que tu sens que ça a pris un certain temps suite à cette coupure-là?
Dans les jours qui ont suivi, c'est sûr que ça a été un choc, parce que dans le fond, j'ai été 2 ans dans l'organisation de l'Impact, à m'entraîner tous les jours, à bosser fort. C'est sûr que ça a été un choc au début. Mais je te dirais que j'ai vraiment essayé de me replacer directement tout de suite après dans un club. Sauf que vu qu'on était tellement en tort dans la pré-saison, que tous les clubs avaient déjà tous leurs joueurs de prix et de signer. Fait que c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que j'aurais pas l'opportunité avant juillet, si j'étais chanceux de pouvoir me remettre dans un club, là, j'ai commencé un peu à paniquer. Là, ça a été dur, là. Que j'ai vu que ça allait être par moi-même, puis ça allait être tout seul que ça allait arriver, puis tu sais, j'avais pas beaucoup l'aide de personne. Là. Fait que oui, effectivement, j'ai dû passer par un processus là, psychologique qui a été difficile, parce que dans le fond, au Québec, la seule organisation professionnelle, c'est l'Impact de Montréal, il y avait rien d'autre. Et oui, je voulais aller à l'étranger, mais l'opportunité s'est pas présentée. Fait que c'est sûr que là, en ce moment, en vivant le combine de la NHL, ça a été une autre opportunité pour moi, dans le fond, là, que j'attendais pour pouvoir me prouver. Puis, personnellement, je pense que je suis au niveau quand même, là, je veux dire, de pouvoir y arriver. Là.
Bon, t'as davantage l'âge de Reda Agourham que celui de Brian Ching, mais est-ce que tu crois encore en tes chances un jour là, de monter jusqu'au plus haut niveau disponible en Amérique du Nord, soit la MLS?
C'est sûr que... C'est un but à long terme. Personnellement, c'est un but à long terme. Jouer dans le plus haut niveau que je peux jouer. En Amérique du Nord, c'est la MLS. C'est sûr que oui, quand j'étais dans l'organisation de l'Impact, je voulais faire le saut en MLS avec eux. J'étais ambitieux, on peut dire. Mais je pense qu'il faut juste pas brûler d'étapes. Maintenant, j'ai fait le combine. Si ça fonctionne pas, c'est sûr que peut-être que ça pourrait fonctionner en USL Pro, peut-être. Peut-être partir de plus bas encore. Mais c'est sûr que si on regarde là, pour un plan de carrière, là, c'est sûr que j'aimerais ça jouer en MLS. Là. Puis je pense que si je brûle pas d'étapes, puis que je vais tranquillement, puis que tout simplement, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Mais en ce moment où on se parle, je pense pas que je suis du calibre à jouer en MLS. Mais peut-être là, avec les années d'expérience, j'ai encore beaucoup à apprendre. Faut que je mature un peu aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est possible.
Ben bon courage, Kevin. On va continuer de te suivre, peu importe là, les étapes que tu entreprendras dans les prochaines semaines, les prochains mois, et bon succès.
Merci beaucoup, Philippe.
Kevin Cossett. Et encore une fois, pour conclure l'émission, nous allons faire le tour de l'horaire télévision. Eh bien, ça se limite cette semaine à 3 jours, puisque l'émission est enregistrée le mercredi. Et ça se limite aussi à pas mal un poste de télévision. C'est Sportsnet World. Raphaël, ça commence vendredi.
Donc vendredi sur Sportsnet World à 2h55, c'est un match de deuxième division anglaise. Donc on aura l'occasion de voir Reading qui affronte Burnley. En fait, pour Burnley, il va avoir David Edgar, le défenseur canadien, qui va être en action. Ensuite, samedi, c'est les matchs de la Coupe anglaise qui débutent, la 5e ronde. Ça débute à 7h25 sur Sportsnet World. C'est Chelsea qui affronte Birmingham City. Chelsea a gagné un seul match à ses 5 derniers matchs, alors que Birmingham a remporté 7 de ses 9 dernières rencontres. Ensuite, à 9h55, juste après, c'est un match entre Everton et Blackpool. Everton a 4 victoires à ses 5 derniers matchs à domicile et Blackpool a la même fiche à ses 5 derniers matchs à l'étranger. Ensuite, à midi 10, un autre match encore de la FA Cup. C'est Sunderland qui affronte Arsenal. Arsenal a remporté son dernier match de Première Ligue contre Sunderland justement la semaine dernière grâce au but gagnant de Thierry Henry dans son dernier match en prêt avec l'équipe en Première Ligue. Dimanche, ensuite, sur Sportsnet World, à 6h55, très tôt, Crawley qui affronte Stoke. Stoke a perdu ses 4 derniers matchs en Première Ligue alors que Crawley, qui évolue en 4e division, est au 5e rang de son classement à 1 point d'une promotion. Ensuite, à 8h55, toujours dans la FA Cup, c'est Stevenage qui affronte Tottenham. C'est un peu comme David contre Goliath avec Stevenage qui évolue en 3e division anglaise et Tottenham qui est presque au sommet de la Première Ligue, qui est au 3e rang en ce moment. Et ensuite, le dernier match de la FA Cup présenté sur Sportsnet World va être à 11h25. C'est Liverpool qui affronte Brighton. Les deux équipes ont battu des adversaires solides en 4e ronde pour se qualifier. Liverpool a défait Manchester United alors que Brighton a battu Newcastle United.
Bien, merci beaucoup Raphaël. Merci pour ta participation à l'émission cette semaine. Une émission qui a été virée sens dessus dessous à la dernière minute avec l'annonce de Brian Ching qui retourne à Houston. Je remercie Jonathan Tannenwald, Patrick Leduc, Marc Touga, Kevin Cossette et Jesus Ortiz. Mon nom à moi, bien, c'est Philippe Germain. Je vous invite à vous abonner à notre page web lesoccerplus.wordpress.com pour être mis au courant immédiatement des mises à jour sur cette balado-diffusion et des articles qui sont publiés de temps à autre. Notre page YouTube à Soccer Plus TV aussi, je vous invite à vous y abonner. Et encore, vous pouvez nous suivre sur Twitter via Soccer Plus FR ou Soccer Plus EN côté anglophone. Et je vous rappelle, en terminant, puisqu'il y en a pas mal, on rit pas mal. Plus il y a de foot, plus on rit. Bonne semaine!